Aujourd'hui, le sujet que je vais continuer à prêcher, c'est le sujet que j'ai commencé il y a plusieurs semaines à propos du combat spirituel. Parce que tout le monde le sait, il y a des esprits dans les lieux célestes. Il y en a des anges qui appartiennent à Dieu, mais il y a des esprits méchants qui agissent présentement pour essayer de détruire tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait dans le monde invisible, puis dans le monde visible, dans où ce qu'on est présentement. Le diable et ses démons sont à l'œuvre. Puis Dieu nous a donné des renseignements importants dans sa parole, des choses qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, il faut les garder dans notre cœur, puis s'en servir pour combattre contre ces puissances-là. On va prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu es présent au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, pour le lieu de rassemblement qu'on a ici pour se réunir, pour pouvoir s'entretenir de ta parole, pour pouvoir venir s'assembler entre chrétiens, pour pouvoir te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour te rendre un culte qui te revient. Je te remercie pour ta douce présence qui est là au milieu de nous. On en veut plus, Seigneur. On va apprendre à te connaître, on veut goûter ta puissance, on veut marcher en contact avec toi, puis on veut marcher dans ce monde accomplissant l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. On met le temps d'étude de ta parole, on le met entre tes mains. Parle à nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la partie qu'on va voir, on va comprendre une dimension à propos de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort sur la croix, puis il est ressuscité, il est monté, il était avec ses disciples, là. Pendant qu'il était ressuscité, il a apparu pendant 40 jours avec ses disciples. Puis il leur parlait à propos du royaume de Dieu. Puis il leur expliquait des affaires. Puis à un moment donné, au bout du 40e jour, Jésus est monté. Les apôtres étaient là, puis ils parlaient avec, puis il est monté. Puis il est parti dans les cieux, puis il a disparu de leur regard. Puis il y a deux anges qui sont apparus, puis un ou deux. Puis il a dit, « C'est Jésus-là que vous avez vu partir, il y a un jour qui va revenir. » Mais là, en attendant qu'il revienne, savez-vous où ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait? Il est assis à la droite de son Père. On va voir des choses qui s'est passées, qu'est-ce qui a été remis à Jésus quand il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il y a des choses que Dieu le Père a données à Jésus. Puis il y a une place où ce que Jésus est parti, à la droite de Dieu, assis sur un trône, puis la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été remis dans le ciel et sur la terre. On va aller lire ce passage-là dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu. » Ça veut dire que Jésus, quand il était sur la terre, il savait qu'avant, il existait dans la forme de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer une vérité ce matin. Jésus, avant qu'il vienne sur la terre en forme humaine, en forme d'un enfant, Jésus existait dans la forme de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu le Père, le Saint-Esprit, on a une image vague, on sait qu'il y a un Créateur, mais Dieu, dans sa nature, dans sa forme, la Bible a dit, je vais juste prendre une parenthèse, avez-vous déjà le soir regardé la grandeur de l'univers dans lequel que la planète est placée présentement. On regarde les étoiles, là. On voit briller des étoiles dans le ciel. Puis il y en a qui sont bien petites, puis il y en a qui sont bien grosses, parce que ça dépend à quelle distance qu'ils sont. Puis là, c'est un télescope, tu vas aller voir encore plus loin des nébuleuses. C'est comme un nid d'étoiles, toutes rassemblées ensemble, formant des belles images que les télescopes peuvent prendre des photos. Tu regardes encore plus loin, puis les savants, les scientifiques nous disent que chaque étoile, c'est un soleil. Fait qu'imaginez que notre soleil il est loin, là. Mais notre soleil est une des étoiles parmi tout l'ensemble des étoiles qui existent dans l'univers. Puis tu regardes ça à perte de vue, là, à notre œil, à nous autres. C'est immense, puis c'est même quasiment à notre œil infini. La Bible nous dit que l'univers en entier est créé présentement à l'intérieur de Dieu. Toutes choses sont créées en lui. Dieu est encore plus grand que tout l'univers que vous voyez présentement. Puis Jésus, il existait en forme de Dieu avant de venir en forme humaine, comme un simple bébé. Il était là, c'est lui, la Bible nous dit que c'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit dans le monde invisible. On ne le voit pas encore, mais on va le voir un jour. Puis tout ce qu'on voit dans le monde visible, c'est Jésus qui a commandé que les choses arrivent, puis les choses sont arrivées par la puissance de notre Dieu. Jésus, quand il était à sa terre, en train de parler avec ses disciples, le savait qu'il venait de là. Il n'a jamais cherché en dedans de lui de se penser égal avec Dieu, de se penser supérieur de Dieu, comme beaucoup d'humains vivent présentement, qui se pensent Dieu, qui se pensent au-dessus de Dieu. Jésus s'est humilié comme un simple homme, comme une personne ordinaire, comme un monsieur tout le monde qu'on voit se promener sur la rue, puis sans se penser supérieur. C'est ça qu'on va lire au verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Puis, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Puis, tout le monde le sait que la mort de la croix, c'est une mort honteuse. Quand tu meurs de ta bonne mort, comme qu'ils disent, tu meurs de vieillesse, tu meurs dans ton lit, puis tu t'endors, puis tu meurs, c'est des belles morts. Quand tu meurs un ACV, tu meurs instantanément, c'est une belle mort. Tu n'as aucune souffrance, tu n'as aucune honte de mourir. Ça se fait en douceur. Mais quand que tu penses que ce créateur-là de l'univers, qui savait qu'est-ce qu'il était, puis qui est venu en forme humaine, qui a décidé de s'humilier comme un simple humain, puis il savait qu'il était pour aller à être obéissant jusqu'à mourir sur une croix, où ce que tout le monde rirait de lui, le frapperait, lui cracherait d'en face, lui le battrait de verge, puis ils l'ont crucifié pour qu'il meure suspendu à un morceau de bois jusqu'à temps que la mort arrive. Puis toute l'humiliation que les gens lui ont fait subir, Jésus a accepté tout cela, même s'il était le Créateur. Puis c'est à cause de cela, ce qu'il a accepté, que Dieu le Père l'a relevé d'entre les morts, puis lui a redonné une position dans le ciel au-dessus de tous les noms qui puissent nommer dans le monde invisible comme dans le monde visible. C'est ça que ça nous dit au verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, puis lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, son vrai nom c'est Yeshua, le nom de Jésus dans ce que sa mère a donné, c'est en français ça, Jésus, mais c'est Yeshua, afin qu'au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Dieu a voulu rélever, puis il l'a pas voulu, il l'a fait, il a rélevé Jésus dans une position comme il avait avant qu'il vienne. En tant que créateur. On va voir d'autres passages qui nous parlent de ça, puis ça nous fait comprendre que le créateur, il y a eu un abaissement en dessous des anges pour un temps, puis après ça, Dieu l'a rétabli dans sa position. On va comprendre des vérités là-dedans, parce que nous autres, il faut s'identifier, c'est quoi notre position avec tout ça. Hébreux 2:7, c'est comme si quelqu'un est en train de parler de ce que Dieu le Père a fait. Tu l'as abaissé, ça parle de Jésus, tu l'as abaissé pour un peu de temps, en dessous des anges. Je vais juste expliquer une parenthèse. Présentement, le monde terrestre qu'on vit, nous autres, on est assujettis à des autorités qui sont au-dessus de nous, puis il y a les gouvernements qui règnent sur la terre. Il y a comme une hiérarchie. Mais dans le monde invisible, qu'on ne voit pas à notre œil, Toute la terre d'à présent avait été assujettie avant ça aux anges. Les anges, il y a toute une hiérarchie d'anges dans le ciel, comme des archanges, des chérubins, des séraphins, des chefs des anges, les archanges, il y a les anges. Il y a toute une hiérarchie d'anges que Dieu avait créée pour gouverner sur la terre. La terre avait été donnée aux anges. C'est les anges qui devaient exercer le gouvernement de Dieu sur la terre. Pour un moment donné dans l'histoire, la Bible nous dit qu'il y a, selon des idées, un tiers des anges qui seraient rebellés de l'autorité de Dieu. Puis eux autres ont commencé à travailler pour détruire ce que Dieu est en train de faire. Fait que quand les humains sont venus au monde sur la planète, quand Dieu a créé le monde terrestre, suite le chef de ces anges-là, Satan, le diable, il est allé tout de suite voir Adam et Ève, les deux premiers humains qui avaient été créés, pour les faire tomber dans une désobéissance qui amènerait ces deux personnes-là à devenir esclaves de Satan. Puis tout l'ensemble, puis là, à cause de cette chute-là, ils ont perdu tout ce qui était des bénédictions données par Dieu dans le jardin d'Éden. Puis une des plus grandes de ces bénédictions-là, c'est d'avoir droit à l'arbre de vie qui leur assurait la vie éternelle sur la terre. Fait que là, ils ont tombé esclaves de ce diable-là, Satan, qui veut dire ennemi. Puis l'ensemble de l'humanité sont nés dans la condition de condamnation que Adam et Ève étaient. L'ensemble de l'humanité naît sur la terre sous le règne du diable et de la puissance du diable. La Bible a dit que le monde en entier est sous la puissance du malin. Celle-là, dans ce verset-là, Hébreux 2, ça nous dit que Dieu le Père, il a abaissé son Fils pour un peu de temps en dessous des anges. Il est venu en forme humaine pour accomplir une mission. Puis après ça, ça dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, puis tu as mis toutes choses sous ses pieds. Pour un bout de temps, Jésus est venu en forme en dessous des anges, en forme humaine. Puis là, maintenant, Dieu lui a redonné la gloire, puis l'honneur, puis il a remis dans une position qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer, même les noms des démons. Ça, on peut comprendre un autre verset qui s'ajuste avec cette idée-là dans Matthieu 28, 18. Quand Jésus est ressuscité, il est venu parler à ses disciples, il a apparu, et là, il dit, je suis vivant, j'ai vu aussi que... Il a parlé pendant 40 jours à ses disciples, puis à un moment, ce qu'il lui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voyez-vous, Jésus a quitté son trône de forme de Dieu, il a accepté à venir pour un peu de temps dans la forme d'un homme, en dessous des anges, puis là, après ça, Dieu lui a redonné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Savez-vous qui est le boss présentement? C'est Jésus. C'est pas le diable. Même si le diable est le boss des humains, bien, il y a encore un boss au-dessus de lui. Ça, c'est qu'on est heureux de connaître ça, qu'il y a un boss, le grand boss, au-dessus de ce dictateur-là qui est en train de régner sur l'humanité puis détruire toute la belle œuvre de Dieu. Ce boss-là, c'est notre boss. C'est Jésus. Il est important de le savoir puis de garder ça. C'est mon boss qui mène, c'est pas le diable qui mène ma vie. Il peut peut-être me brosser, mais c'est pas lui qui va avoir le dernier mot. C'est mon boss qui mène, c'est le nom de Jésus qui est là. Puis là, dans Éphésiens 1, 19, on va aller lire un autre passage qui nous parle, pour nous faire réaliser encore des pensées dans Éphésiens 1, 19, pour nous faire réaliser encore des pensées à propos de ce sujet-là, pour que nous, enfants de Dieu, chrétiens, ceux qui marchent par la foi, qui croient aux promesses de Dieu, faut qu'on réalise notre position, qu'on réalise ce qui est à notre disposition. Tout ce que Jésus est venu faire, c'est pour nous donner quelque chose. Il faut le réaliser parce que ça va nous permettre de marcher dans la victoire contre les attaques de l'ennemi. On parle de combat spirituel, c'est normal qu'on parle de combattre les esprits. Éphésiens 1, verset 19. Il veut qu'on réalise qu'elle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance, Dieu met à sa disposition, met à notre disposition l'infinie grandeur de sa puissance. Il a mis sa puissance sur Jésus. Qu'est-ce que ça a fait? Il a remporté la victoire puis il a accompli ce qu'il devait faire. Mais il dit, il veut qu'on réalise qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ. Sa force, là, sa puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, puis en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est ressuscité, puis il est présentement assis dans les lieux célestes, à côté de Dieu le Père. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? On l'a chanté tantôt. Jésus, il est assis dans les lieux célestes, au verset 21, ça dit, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus, il a maintenant toutes choses sous ses pieds. Puis Dieu le Père a fait que ce Jésus-là qui est venu il y a 2000 ans sur la terre en forme humaine, il est devenu le chef suprême de l'Église. On va voir un petit peu plus loin que l'Église, c'est pas n'importe quoi. Quand on parle de l'Église, c'est pas la bâtisse. L'Église, ça parle chacun de nous qui sommes sauvés. C'est le rassemblement des croyants. C'est ça, l'Église. Tu peux être dans la rue, puis être l'Église dans la rue. Tu peux être toute la gang rassemblée dans une maison, puis c'est l'Église dans la maison. C'est pas la bâtisse, c'est le rassemblement des croyants. Mais on va voir que Jésus, il a été mis comme chef suprême de l'Église. Puis l'Église, c'est pas n'importe quoi. C'est l'entité la plus puissante, la plus grande, l'autorité qui est juste en dessous de Jésus. Nous, on est assujettis en Jésus, mais l'Église, vous allez voir dans les autres versets qu'on va lire, notre nouvelle position en Jésus, nous sommes son corps. Nous sommes présentement comme une extension de Jésus sur la terre. Les vrais croyants, c'est comme si on serait Jésus sur la terre. Chaque croyant est comme si ça serait Jésus qui serait là. On est en train de marcher, de parler, d'agir dans le nom de Jésus. C'est ça que ça nous dit au verset 22. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Puis il a été donné aussi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus, quand il était sur la terre, là, il était juste à un endroit à fois. Il était un homme. Mais quand il est ressuscité, Dieu lui a redonné la plénitude de ce qui remplit toute chose. Tu sais, quand je vous parlais tout à l'heure, toute chose, l'univers en entier, pour aussi loin que peuvent être les planètes, tout ça s'est créé en Dieu. Fait que là, Jésus a réobtenu la plénitude de ce qui rend que toute chose est remplie en lui. Il est retourné dans la position qu'il avait, dans la gloire qu'il avait auparavant, avant que le monde fût. Il est retourné dans la position qu'il avait en tant que créateur. Puis là, il est maintenant le chef suprême de l'Église. Puis l'Église, nous sommes son corps. C'est comme si, sur la terre, nous sommes en train de marcher dans son nom et y accomplir sa volonté. Pareil comme le corps policier. Les policiers, là, tu prends le corps policier, mettons la police de Montréal, sont comme les représentants de la loi. Les hommes ont fait une loi, puis la loi doit être appliquée et respectée. Puis c'est les policiers qui sont un corps policier, qui sont là pour marcher dans les rues et faire exercer l'autorité de cette loi. C'est les policiers, puis aussi les juges, les avocats, tous ceux qui sont dans le système judiciaire qui sont là pour faire appliquer la loi, c'est les policiers qui l'exercent, qui sont dans les rues puis qui interviennent avec chacun. ils voient quelque chose de pas correct, ils voient quelqu'un en train de faire un vol, c'est le devoir d'aller arrêter le voleur puis de l'emmener à le faire juger pour qu'il soit condamné et renfermé. Nous, présentement, en tant qu'Église, on est pareil à ça. On est le corps de Christ sur la terre. C'est nous, présentement, qui sommes en train d'exercer l'autorité du Seigneur, qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Pas juste à cause que je m'appelle Daniel Poulin, que je fais ça. Non, c'est l'Esprit de Dieu à travers moi, Jésus, à cause que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai demandé pardon, le Saint-Esprit rentre en moi, puis maintenant, le Saint-Esprit m'utilise pour pouvoir être un de ses ambassadeurs, un membre de son corps. Il n'y a pas juste moi. Chacun de ceux qui a donné sa vie au Seigneur pour suivre le Seigneur, premièrement pour recevoir le pardon des péchés, mais après ça, le Saint-Esprit t'équipe pour que tu sois un témoin, une personne comme représentant de Dieu. Tu fais partie du corps, et Jésus n'a qu'un seul corps, une seule église. Il n'y a pas 30 sortes d'églises. Il n'y en a une seule, puis Jésus dit, je bâtirai mon église. Il n'y en a qu'une qui est en train de bâtir. C'est l'église générale dans toute la planète. Formée de croyants qui croient en son sacrifice, qui ont reçu par la foi le cadeau d'être pardonnés, puis qui ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ils marchent en communion avec l'Esprit-Saint pour accomplir des tâches que Dieu leur demande. L'Église, c'est là qu'on va voir que c'est spécial d'être un enfant de Dieu, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est présentement assis dans les lieux célestes en Jésus. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, il est assis à côté de Dieu le Père, sur le même trône, puis ça nous dit dans le prochain verset qu'on va aller lire, que nous, les membres de son Église, ça c'est dans Éphésiens 2.5, on fait partie, on est assis dans les lieux célestes, en Jésus. Il faut aller lire ça, c'est trop important. Éphésiens 2.5. C'est plus le verset 6 qui est... Mais ça commence par nos offenses, qu'il fallait être ressuscité. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce qu'on est sauvés, pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est un cadeau qui nous a été fait. Il nous a rendus à la vie, puis il nous a ressuscité ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, on est en train de voir c'est quoi la position de l'Église. C'est quoi votre position? Vous êtes des personnes ressuscitées, pardonnées, puis vous êtes assis présentement dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous êtes assis dans le nom de Jésus. Toutes les promesses de la Bible s'obtiennent par la foi dans le nom de Jésus. Toutes. Premièrement, la vie éternelle. Je vais vous lire des versets, là. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Mais dans Jean 20, 31, ça dit, « Mais toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Fait que toutes les choses qu'on a en son nom, là, à cause qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus, on a la vie en son nom, on a la vie éternelle. On est des enfants de Dieu. Ça nous dit dans Jean 1-12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À cause de son nom, on a tous reçu le Saint-Esprit quand tu te convertis à Jésus. Dans Jean 14-26, ça nous dit, « Le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera ce que je vous ai dit. » Qu'est-ce qu'on a encore de plus en son nom? On a tous les exaucements de prière dans son nom. Dans Jean 14-13, nous dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, que Jésus a dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Quoi d'autre qu'on a dans son nom? Nous avons reçu la puissance pour voir des miracles.
Amen.
Et des prodiges. Dans Marc 16, 17, ça nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris. C'est encore dans son nom. On est assis dans son nom. C'est tout dans son... Nous avons reçu à cause de son nom tout ce qui était nécessaire pour notre vie en lui. Colossiens 2:10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, toute autorité. Tout ce qu'on avait besoin d'obtenir, on l'a obtenu en son nom. À cause de son nom, on a vaincu le monde. Parce que s'il y a bien un pouvoir qui agit à part du pouvoir du mal de Satan, le monde spirituel, le monde humain, avec tous ses faux enseignements, son égarement, les faux enseignements qui donnent comme la théorie de l'évolution, toutes les choses, les plaisirs de ce monde pour nous corrompre, tout ça, là, pour essayer de nous aveugler puis nous entraîner loin de Dieu, on a maintenant en son nom la victoire sur tout le monde. Dans 1 Jean 4:5, ça nous dit... Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Maintenant, on marche dans une victoire à cause du nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a plein de choses encore qu'on a. À cause du nom de Jésus, son Église, il nous a équipés d'une autorité et d'une puissance pour combattre l'ennemi, pour combattre le diable, pour combattre ses démons. Dans Luc 9, 1, Jésus, ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les malades. Quand Jésus il est apparu, pas apparu, quand il était sur la terre en train de parler à ses disciples, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Pour annoncer une bonne nouvelle, tout ça, mais il m'a oint aussi pour guérir les malades, les aveugles, le recouvrement de la vue, tout ça, puis chasser les démons. Jésus, à nos passages, ça nous dit, que Dieu était avec lui, guérissant tous ceux qui sont sur l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus était sur la terre en train de marcher dans une autorité et un pouvoir qui faisait que tous les démons sortaient des personnes. Toutes les personnes qui venaient à lui qui étaient malades, ils étaient guéris instantanément. Parce que Dieu était avec lui. Puis maintenant, Jésus a dit à ses disciples qu'il leur a donné la force et le pouvoir sur tous les démons. Il n'y a pas un démon qui peut résister à l'autorité et au pouvoir de ses disciples. On va le voir ensuite. Bien, certaines options. Qu'est-ce qu'ont fait les apôtres quand ils ont reçu cette autorité-là et ce pouvoir-là? Jésus les a envoyés prêcher. Puis il en a formé même plus que 12. Il a envoyé les 70 disciples. Jésus a-tu donné son autorité, son pouvoir juste aux 12 apôtres? Qu'est-ce qu'on voit dans Luc 4, 33, 35? C'est dans Luc 10, 17, je me suis trompé de verset. Les 70 là, qui sont écrits là, Jésus avait ses 12 apôtres. Puis à un moment donné, il y avait beaucoup de disciples qui se rejoignaient autour de Jésus. Jésus en a choisi 70 parmi ce groupe-là. Il les a emmenés avec lui, puis il les a donnés. Quoi? Les 70, ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons, puis de guérir les malades. puis les envoyer prêcher la bonne nouvelle à partout ce qui de Jésus lui-même devait aller. Puis quand ces disciples-là sont revenus, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ça veut dire que ces 70 personnes-là utilisaient le nom de Jésus pour chasser des démons qui étaient en train de tourmenter des personnes. Ils ont été partout où Jésus devait aller, puis ils ont commencé à invoquer le nom de Jésus sur les malades. Puis les gens étaient guéris, puis les démons, ils partaient des gens, puis les gens, ils obtenaient une guérison ou une délivrance à cause du nom de Jésus qui est employé. Jésus leur a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Satan, il pognait une débarque à tous les fois qu'un de ses disciples invoquait le nom de Jésus, mais le nom de Yeshua. Pourquoi? Parce que ce nom-là, c'est pas n'importe quel nom, c'est le nom du Créateur. Puis tantôt, j'ai dit que nous, l'Église, on est assis dans son nom, dans les lieux célestes. Puis où est-ce qu'il était assis, Jésus? On était assis en lui dans les lieux célestes, mais où est-ce qu'il était assis? Lui, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout pouvoir. Puis nous, présentement, on est assis dans sa position d'au-dessus de tout, à côté de Dieu le Père. C'est quelque chose, ce que Dieu a fait avec chacun de nous qui étions des pécheurs, puis qui sont encore parce qu'on en fait encore. On marche avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, puis il nous a donné une autorité et un pouvoir pour chasser tout démon. C'est le même phénomène qui se passe avec les policiers à Montréal. Quand une personne a suivi son entraînement pour devenir policier, elle passe devant un genre de cours, puis ils font un serment, puis ils ont une lecture à faire d'un texte qui s'engage à défendre l'ordre et la justice, puis à être des représentants de la loi, puis à bien accomplir leur travail dans la droiture et la justice, pas à devenir des criminels eux autres non plus. Ils s'engagent à être des dignes représentants pour faire la job d'arrêter les criminels. Après ça, les policiers s'en vont dans la rue, puis ils exercent l'autorité. Ils arrivent devant un voleur. « Au nom de la loi, je t'arrête. » Pas dans son nom à lui, dans le nom de l'autorité qu'il représente. Il représente l'autorité. Si c'est la police de Montréal, ben Montréal a des lois, puis les policiers sont engagés pour représenter cette autorité-là, puis ils s'en vont devant des criminels, puis dans le nom de la loi, je t'arrête. Ils ont l'autorité, puis ils ont le pouvoir, mais des fois pas rien qu'à un policier. Faites la comprendre la différence, là. Je l'ai peut-être déjà expliqué, mais un policier là, peut se mettre dans la rue, puis il y a une auto qui sent rien, puis le policier, il est habillé en policier, il représente la loi, puis il monte sa main de même, puis même si un auto ou un camion s'en vient, à cause que le policier ordonne, rien qu'à montrer un signe, l'auto va arrêter. Parce qu'il est la loi. Il a l'autorité d'arrêter. Les véhicules ou de faire circuler comme qu'il voudra sur un coin de rue où il y a l'autorité au nom de la loi, je t'arrête, il y a l'autorité de l'arrêter. Mais pour ce qui est du pouvoir d'arrêter, c'est clair qu'à lui tout seul, si l'autre il résiste à l'autorité, il peut se faire passer sur le corps par le camion. C'est pour ça que la police s'était mis ou qui ont le pouvoir aussi, ils ont tout l'équipement qu'il faut pour pouvoir l'arrêter, le camion. Ils vont mettre des barricades, ils vont mettre des bulldozers s'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut pour l'arrêter. Ils ont aussi le pouvoir, pas juste l'autorité. Ils sont équipés de tous les véhicules qu'il faut puis les accessoires qu'il faut pour pouvoir avoir le pouvoir aussi, pas juste l'autorité, avoir le pouvoir d'arrêter ce camion-là qui s'en vient. Des fois, ils sont obligés de se mettre en groupe. Ils ont le pouvoir d'arrêter ceux qui font du trouble, comme après le match de hockey. Il y en a qui ça dégénère, ils cassent des vitres. Ils ont l'autorité d'être là et d'arrêter tout ça. Puis la force, c'est qu'ensemble, ils ont aussi l'entraînement et l'équipement puis l'autorité pour maîtriser ceux qui font le trouble puis de les amener de passer devant la loi. Mais l'Église, c'est la même affaire. Quand tu viens à Jésus, tu es ressuscité, Jésus te prend, puis tu es assis dans les lieux célestes, dans son autorité, tu as reçu autorité sur tous les démons, tu as le pouvoir de les chasser. Si tu commandes à un démon au nom de Jésus, je t'ordonne de t'en aller, c'est pareil comme le policier, au nom de la loi, je t'arrête, au nom de Jésus, on marche dans son nom, je te commande de t'en aller, ils sont obligés de s'en aller. À cause de l'autorité que tu as, puis l'autorité dans le nom que tu marches, ils sont obligés de s'en aller. Mais ça peut arriver qu'il y en a qui résistent. Là, ça prend le pouvoir de l'enlever, pas juste l'autorité, parce qu'il résiste. Quand il n'y a pas de résistance, tu n'as pas besoin du pouvoir, tu as l'autorité. Mais quand il résiste, un enfant de Dieu qui prend autorité pour combattre contre un esprit, il sait que l'autorité est le pouvoir. Il doute pas, l'enfant de Dieu, qu'il peut ordonner à un démon de sortir puis de quitter sa maison. Fait que quand il commande à l'esprit de s'en aller, s'il résiste, puis il reste là, puis il obéit pas immédiatement, vu qu'on est des représentants du royaume de Dieu, on colle du renfort, même les policiers. On demande à d'autres chrétiens de venir prier avec nous autres, puis de prendre l'autorité. Puis s'il obéit pas, Dieu envoie ses anges pour accomplir la parole qui a été annoncée par un de ses enfants. Puis là, il y a une guerre spirituelle. Il y a un paquet de démons, d'anges de Dieu qui débarquent pour venir chasser ce ou ces démons-là qui résistent à l'autorité. Puis c'est clair que ça prendra pas de temps, là. Il y a un temps, il peut y avoir des délais dans une bataille, mais c'est officiel qu'on a la victoire. Il n'y a pas question qu'aucun démon ne peut résister à l'autorité de Dieu. Des fois, c'est juste un délai. Faut pas que le chrétien doute quand il l'a ordonné au démon de s'en aller. Faut pas que le chrétien doute puis il dit « Ah ben là, je suis pas sûr que ça va marcher, puis je pense que ça marchera pas, puis j'aurais peut-être jamais dû dire ça, puis là, je pense qu'on va m'en aller, puis là, il se laisse maltraiter par le démon, puis le démon prend le dessus. » Non, un policier ne pensera pas de même. Le policier débarque. Mon père était policier. Il y en a qui sont plus fonceurs que d'autres. Il y en a des policiers qui vont y aller parce que l'autre policier y va. Ça dépend chacun de notre tempérament. Mais mon père m'avait raconté une anecdote. À un moment donné, il était dans une place qui avait eu des coups de feu dans une maison. Puis là, les voisins ont fait une plainte. La police débarque, lui puis un autre policier avec lui. Puis l'autre, il avait la trouille, il voulait pas y aller. Mon père n'était pas y aller, pas peur. Il rentre dans la maison, puis il y a peut-être 15-20 personnes, puis il y a eu des coups de feu. Mon père lui a dit, vous êtes tous en état d'arrestation. Il n'a pas eu peur. Vous êtes tous en état d'arrestation. Puis lui, il était tout seul, puis il était 15-20 dans la maison. Puis c'était sur le party, puis il y avait eu des coups de feu. Là, il y en a un qui s'en vient, ouais, tu vois ça, on va... Viens! Il n'a pas peur. Il demandait, puis t'es prêt à les confronter par sa force humaine, mais là, je dis ça, c'est un exemple humain. Mais il n'avait pas peur. Il croyait dans quel nom qu'il marchait, dans l'autorité qui était. C'est sûr que la gang n'aurait peut-être pas la force de tous les maîtriser, c'est sûr. Mais il n'a pas eu peur, il a fait ce qu'il a à faire, puis se sont tous pliés, puis ont baissé la tête, puis ont tout accepté de se faire arrêter. Mais ça, c'est pas une affaire à faire dans le monde, là, en tant qu'humain. Lui, il l'a fait, me l'a raconté, puis c'est vraiment un bel exemple pour un chrétien qui est seul dans ses combats. Puis des fois, t'es attaqué par l'ennemi. T'as des combats, les esprits viennent te mettre de l'oppression, tu peux être malade à cause d'un esprit, tu peux vivre des liens dans ta chair ou dans des choses c'est des attaques de l'ennemi carrément, que ça va mal. Sache que tu es assis dans une autorité au-dessus de lui. Puis lui, il sait que tu l'as, cette autorité-là, ce démon-là. On va aller lire des passages par après qui parlent de ça. Mais irrite-toi si tu prends pas l'autorité. C'est comme si un gars qui est habillé en policier, il a le rôle de policier, puis il y aurait un voleur devant lui, puis là, le voleur, il dit, tu me fais pas peur, puis tu vois ça, on m'a te planté, puis là, le policier s'y plie, puis il croit plus en son rôle, puis en son autorité, puis en sa capacité de coller d'autres policiers pour avoir la force de maîtriser la situation. Ben, il accepte, je m'en vais, je me sauve. Les policiers sont pas supposés de reculer devant une personne. Mais nous, est-ce qu'on recule devant les esprits qui viennent nous attaquer? On le sait-tu qu'on a l'autorité et le pouvoir? Puis c'est pas long qu'on colle d'autres chrétiens pour venir nous aider à prier pour ce combat-là spirituel. Puis c'est pas long aussi que les anges de Dieu débarquent puis qu'ils viennent faire un ménage parce qu'ils sont obligés. Hein? Les anges de Dieu, ça dit, c'est des esprits au service de ceux qui doivent exercer hériter le salut. Les anges de Dieu sont nos compagnons de service. Ils vivent, ils campent autour de ceux qui craignent le nom de Dieu. Ils campent là, sont là, ils ont mis leur tente dans votre maison. Ils font du camping dans votre maison, les anges de Dieu. Ils sont là pour votre protection puis de combattre avec vous. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu t'équipe de tout ce que tu as besoin pour être victorieux. Les policiers, ils les envoient pas avec les mains vides. Ils ont un gun, ils ont une matraque, ils ont tout l'équipement, ils ont des vestes anti-balles, ils ont même si c'est des gens qui travaillent à l'anti-émeute, ils ont des boucliers, ils ont des matraques. Ils sont tous équipés pour combattre. C'est pour ça que Dieu dit aux chrétiens de prendre toutes les armes de Dieu pour combattre efficacement, parce qu'on n'a pas à lutter contre les humains, on a à lutter contre les dominations, les autorités, ces princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour ça, dans ce passage-là, il dit, revêtez-vous de toute la puissance de Dieu pour combattre. Et là, il n'y a pas de raison qu'on se laisse battre. C'est nous l'autorité. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu a placé ses enfants dans une autorité. Puis on a tout l'équipement nécessaire pour être des soldats. Pas juste à être des bébés dans le Seigneur, comme un nouveau-né qui a juste sa couche. Il n'y a aucune protection, un nouveau-né. Normalement, une personne qui est nouveau-né finit par grandir, finit par aller prendre l'instruction qu'il a de besoin, il devient un homme, puis il peut aussi s'équiper pour être un soldat, puis aller au front dans l'armée, puis être équipé avec toutes les armes, puis il a tout appris comment ça marchait, puis c'est sa job d'aller défendre son pays. Mais spirituellement parlant, chaque enfant de Dieu, on est là pour travailler pour le royaume des cieux, on est les ambassadeurs de Dieu, puis on a à combattre contre les esprits qui sont là, qui sont en train de prendre le monde, puis les amenant dans les temps de feu pour l'éternité. Puis nous, on est là pour semer la parole de Dieu, puis combattre les esprits qui agissent. Puis dans notre rôle, on a reçu l'autorité et le pouvoir pour les chasser. Amen. Tiens, amen à cela. Fait que les 70 avec sont revenus, puis ils ont vu que ça marchait. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à leur position, puis quand ils arrivaient devant un esprit, il n'y a pas de niaisage, ça marche-tu, ça marche pas, ça va-tu, je devrais-tu, je devrais pas. Au nom de Jésus, je te commande de sortir. C'est pas long que les démons vont partir. Puis si ils écoutent pas le premier coup, on garde notre entêtement, puis on y commande, puis on demande à d'autres de venir prier avec nous autres, puis on demande les dieux, puis envoyer ses anges, puis ils vont venir combattre avec nous. Puis c'est clair et officiel, ils sont obligés de s'en aller. Il n'y a pas si ça lui tente, ils sont obligés. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle que l'ange a le pouvoir, les démons ont le pouvoir, c'est les humains, sur les chrétiens. C'est le contraire. Tous les versets, j'en ai nommé plusieurs, j'en ai quelques-uns encore au fin de tout ça. On a l'autorité. Ils sont obligés. Eux autres le savent. Nous autres, il faut apprendre à le savoir qu'on l'a. Mais eux autres le savent qu'on l'a, l'autorité. Je vais juste pour dire comment est-ce qu'eux autres le savent. Luc 4, 33. Jésus, à un moment donné, quand il a commencé son ministère, il est allé dans une église, dans une assemblée où les gens étaient réunis. Ce n'était pas une église, c'était le temple, pour entendre une synagogue, pour entendre la parole de Dieu prêchée par les Juifs. Jésus était là dans la réunion. Puis pendant que Jésus était en train de parler, il y a une personne dans l'assemblée qui s'est levée. Cette personne-là était prise d'un démon, était possédée d'un démon. Ça, c'est dans Luc 4, 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, il a lâché un cri, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? T'es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Puis le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ce que je veux qu'on sache ce matin, les démons connaissaient Jésus. Jésus connaissait son rôle. Il n'a pas niaisé. Quand le démon s'est manifesté, puis il a commencé à s'opposer en criant, Jésus, lui, ça nous dit, Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » C'est l'autorité qui est en train de parler. C'est moi, c'est Jésus, c'est moi qui mène cette, « Tu sors. » Qu'est-ce que le démon a fait? Il est sorti, puis il n'a même pas dit un mot, puis il n'a même pas fait mal au gars. Il a claqué à la porte en sauvant en courant. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le boss. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Là, vous allez me dire, ouais, c'est vrai que les démons connaissaient Jésus. Mais est-ce que les démons nous connaissent, nous autres, en tant que chrétiens? Fait que les petites brebis de Saint-Rémy et environ. Les démons nous connaissent-tu? Je vais vous montrer un autre passage dans Actes 19, 13. Vous allez voir que les démons, ils connaissent les chrétiens, les vrais. Pas ceux qui utilisent le nom de Jésus sans être sauvés. Vous allez voir qu'il y a une différence. Actes 19, 13. Là, on va voir dans ce passage-là qu'il y a des gens qui ont décidé d'improviser, de s'improviser. On est des exorcistes maintenant. Puis c'était pas des chrétiens. C'était des gens qui s'improvisaient pour être des exorcistes. Ils voulaient exorciser le monde, chasser les démons des personnes. Mais eux autres, ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils se sont improvisés à essayer de chasser les démons dans la vie des autres. Puis quand ils ont essayé de chasser le démon, ils ont vu que ça marchait avec le nom de Jésus, quand les apôtres puis les 70 utilisaient le nom de Jésus, puis les démons sortaient. Fait qu'eux autres, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils ont commencé à prendre le nom de Jésus, puis à le prendre, puis à essayer de chasser le démon dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça a fait? Quelques exorcistes juifs ambulants, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Eux autres, ils n'étaient pas en contact avec Dieu, ils n'étaient pas sauvés, mais ils savaient que Paul, quand il chassait un démon, il prenait le nom de Jésus puis ça marchait. Fait qu'eux autres, ils ont dit « On va l'essayer. » Ils ont parlé au démon « Je vous conjure dans le nom de Jésus que Paul prêche. Je vous conjure de sortir. » Ceux qui faisaient ça, c'était sept fils de Séva, qui étaient des Juifs, puis ça, c'était un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Puis l'homme dans lequel qui était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous. Puis il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Dans cette vérité-là, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, ils ne se sont pas engagés de donner leur vie au Seigneur, puis ils vont essayer de chasser des démons dans la vie des autres en utilisant le nom de Jésus que l'autre utilise. Essayez pas ça, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont pas assises dans l'autorité. T'as beau utiliser le nom de l'autorité, si t'es pas ressuscité puis assis dans le nom qui est au-dessus de tout nom, tu l'as pas reçu, cette autorité-là. Un exemple humain là-dessus. Vous êtes sur la rue, vous voyez un char qui passe vite. Vous êtes pas une police. Mais si elle avait la personne, là, au nom de la CIP, t'as essayé d'imposer ton autorité, tu l'as pas, cette autorité-là. Le gars, il va t'envoyer promener, puis il va s'en aller. Tu ne pourras pas arrêter cette personne-là s'il te résiste. Tu n'as aucune autorité, aucun pouvoir de l'arrêter. Tu peux essayer d'aller voir l'autorité et aller dire à l'autorité d'aller régler son cas. Mais toi, tu n'as pas l'autorité et le pouvoir de régler son cas. C'est la même chose. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur pour lui appartenir, vous n'êtes pas encore des êtres ressuscités. Vous n'êtes pas assis dans les lieux célestes en Jésus. Vous n'avez pas reçu cette autorité-là, ce pouvoir-là. L'autorité et le pouvoir, ça se reçoit quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie au Seigneur. Le Seigneur pardonne tous tes péchés, il te ressuscite, il te redonne la vie, il t'installe dans son autorité, assis dans les lieux célestes, au-dessus de tous les noms. Puis là, tu peux utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Puis le démon, il dit, « Je connais Jésus, puis je sais c'est qui, Paul. » Mais vous autres, je ne vous connais pas. Les démons savent qui est chrétien et qui ne l'est pas. Les démons savent qui appartiennent à Jésus. Les démons le savent, qui sont dans l'autorité. Ça ne paraît pas, là, mais j'ai un habit de chrétien sur moi. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, hein? Moi, je suis humain, j'ai un habit d'humain sur moi, mais j'ai aussi une autorité sur moi, un habit de chrétien, d'enfant de Dieu. C'est un habit de lumière. On est revêtu de sa lumière, puis un verset qui dit « Il fait de ses enfants une flamme de feu. » On est comme enflammé, comme dans une flamme. Quand tu es chrétien, dans le monde invisible, les démons nous voient, puis ils voient le feu de Dieu qui nous enveloppe. Puis ça, c'est l'autorité, le pouvoir de la sainteté de Dieu. Et les esprits impurs, les démons, le voient et ils le savent. Puis ils ont une crainte de ce que vous allez prononcer comme parole, puis essaye de nous endormir pour qu'on ne voie pas notre position, puis que là, on n'utilise pas l'autorité qu'on a reçue. Pourtant, Jésus a dit, dans Matthieu 16, 18, Jésus a parlé à Pierre, « Et moi, je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il dit, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Ceux qui font partie de son Église à Jésus, les portes du séjour des morts, ne peuvent pas prévaloir, ne peuvent pas avoir le dessus sur son Église. On est des êtres ressuscités. Il dit, on n'ira pas en condamnation, mais on est passé de la mort à la vie. L'ennemi ne peut plus rien faire contre nous autres. On est déjà des victorieux. Je vais vous lire deux petits passages juste pour terminer avec ça. C'est comme si la Bible nous dit à travers de Jacques puis de Pierre de combattre. Vous êtes des chrétiens, vous avez accepté, pour ceux qui ont accepté Jésus, vous êtes des chrétiens, les enfants de Dieu, vous marchez dans l'autorité et le pouvoir de Dieu. Dans Jacques 4, 7, ça nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. La Bible nous dit, utilise l'autorité et le pouvoir que tu as reçu, utilise-le contre le diable, puis il va fuir. Il n'a pas le choix de fuir. Il a peur de nous, parce qu'on marche dans une autorité supérieure. 1 Pierre 5, 8, ça nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Laissez-vous aller tranquillement, puis laissez-vous engloutir. Non, c'est pas ça que tu écris. C'est résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible nous dit, résiste au diable avec une foi ferme. Il va fuir. Ça fait partie de la position qu'on a en Jésus, son autorité et son pouvoir. Maintenant que j'ai dit tout ça, ça c'est une possibilité pour tout le monde. Si vous êtes ici ce matin, là, c'est pas pour rien. Dieu vous appelle à faire partie de ses rangs, des rangs de son armée, d'une armée de soldats qui combat contre la puissance des ténèbres. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez reçu des instructions aujourd'hui qui vont vous aider à aller de l'avant puis prendre l'autorité qui vous a été donnée pour combattre puis marcher dans la victoire. Mais si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre sauveur et Seigneur, si vous n'êtes pas engagé à suivre Jésus, vous n'avez pas encore passé par la nouvelle naissance, puis que vous vous dites, « Hey, moi, je veux rentrer dans ce combat-là. Je suis tanné que le diable m'emmène, puis me barouette, puis qu'il me frappe de tous les bords, puis je ne suis pas capable de me défendre. Je veux, premièrement, être sauvé, puis je veux aussi l'autorité, le pouvoir pour combattre le diable, puis pouvoir avoir la victoire dans ma vie. » Je fais un appel ce matin. Pour ceux qui veulent recevoir Jésus comme leur sauveur personnel, je vous demande de vous avancer en avant. On va faire une prière ensemble qui va vous introduire à demander pardon au Seigneur pour vos péchés, puis pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit pour que vous soyez des personnes ressuscitées, puis puissiez recevoir aussi tout l'équipement que vous avez besoin pour être un soldat, puis de marcher dans les victoires. Pendant qu'on va chanter ce chant-là, je vous invite à vous avancer. Puis les autres, ceux qui sont assis dans l'Église, qui ont déjà fait cette prière-là de donner leur vie au Seigneur, mais qui veulent dire à Dieu, « Seigneur, je m'engage. Je veux être renouvelé. Je ne sens pas ton onction, je ne sens pas ta puissance, je ne sens pas ma position, Jésus. Puis je veux la vivre, cette position-là. Je veux saisir par la foi ce que tu as à me donner. » Vous allez vous avancer, vous autres, en avant. On va faire une prière ensemble. On va demander à Dieu de nous renouveler puis de nous équiper pour qu'on sorte d'ici, là, qu'on n'oublie pas ce qu'on a reçu. Qu'on sorte d'ici pour qu'on commence à combattre efficacement. Tous les jours, l'ennemi vient puis il vous met des mauvaises pensées pour les chasser dans le nom de Jésus. L'ennemi va vouloir venir pour essayer de vous capturer. Vous allez briser ses liens et ses chaînes puis vous allez le chasser. Je vous demande de vous avancer en avant. Ou d'être renouvelé dans la présence de Dieu. Alléluia.